Pour compléter notre couverture ce matin de l'assermentation du président Biden, de la vice-présidente Mme Harris, il y a tout le volet de ces groupes complotistes qui ont été évidemment très calmes hier. Il n'y a pas eu d'incident, sauf bien sûr des manifestations sur les réseaux sociaux. Imaginez un gourou de secte qui annonce la fin du monde pour telle date et que la fin du monde n'arrive pas. Tu dis quoi à tes fidèles? Là, tu es obligé de rembobiner et d'imaginer d'autres scénarios. C'est un peu probablement ce qui est en train de se passer. J'en parle avec Marie-Ève Carignan, qui est directrice du pôle média de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent à l'Université de Sherbrooke. Madame Carignan, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, parlez-moi un peu de ce qu'on retrouvait donc sur les réseaux sociaux de ces groupes à la toute veille de l'inauguration. Moi, j'ai vu, par exemple, des gens qui disait, écoutez, le plan s'en vient, il y aura des arrestations, M. Trump a développé une approche secrète, bref, Biden ne sera jamais président. J'ai beaucoup lu ça avant la sermentation.
Tout à fait, ce qu'on voyait dans plusieurs cercles liés à QAnon, c'était l'idée que le 20 janvier, donc au moment où Biden serait assermenté, ce serait un gouvernement illégal et là, l'armée pourrait procéder à son arrestation. Et là, justement, là, il y aurait la grande tempête qui révélerait vraiment le grand plan de Trump et qui produirait là, le grand réveil de la population où là, on verrait toutes les listes, l'élite supposément pédosataniste qui serait arrêtée et Trump qui reprendrait le pouvoir qui lui aurait été à ce moment-là prétendument légitime.
Bon, alors, comme c'est pas arrivé selon le plan annoncé, comment on se retourne de bord puis qu'est-ce qu'on dit aux fidèles?
Et là, il se passe toutes sortes de choses hein, sur les réseaux sociaux en ce moment. J'essayais de suivre un peu, puis je voyais différents observateurs. On est au lendemain de ça, alors beaucoup de réactions qui risquent d'évoluer. Ce qu'on a vu, entre autres, c'est une frange quand même de gens qui, là, vraiment étaient en désespoir, en disant « Bon, mais là, on va jeter l'éponge, ça fait plein de fois qu'on attend des dates, il s'est pas passé ce qu'on attendait, il faut retourner à nos vies d'avant ». Il y a aussi à côté ceux qui continuent de nourrir de l'espoir en disant « Non, non, quelque chose va arriver. Attendez, ça va être une nouvelle date. On nous teste. Il faut montrer qu'on est des fidèles parce que c'est justement la preuve là, qu'on est de vrais croyants et c'est ce qu'on attend de nous. » Et puis, il y a ceux qui sont exaltés, là, qui lâchent pas en disant « Non, non, on voit encore des signes. Regardez à travers tout ce qui se passe. Toutes sortes de signes se mettent en place. » Donc, il y a vraiment toutes sortes de réactions là, en ce moment.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui pourraient décrocher, là, qui ont été emportés un peu par le tourbillon, puis qui se disent, ben là, finalement. Ma question, pour être plus précis, là, est-ce qu'ils décrochent parce que là, ils réalisent que ça ne tient pas la route, ou c'est carrément la déception?
Il y a toutes sortes de cas. Il y en a beaucoup qui décrochent pas, finalement. On voit qu'ils vont même basculer vers un discours plus violent. Puis là, il y a d'autres groupes, par exemple nazis, qui allaient approcher ces gens-là, qui ça peut être inquiétant. Par contre, il y a une frange, oui, qui là disait, ben là, je suis fatiguée de sentir que je m'éloigne de mes amis ou de ma famille, et puis avoir l'impression que rien se passe. Je pense que j'ai consacré beaucoup trop d'énergie à ça. Ce qui est particulier aussi, c'est que beaucoup de gens en ce moment, avec la pandémie, c'est ce qu'on voit nous dans nos données de sondage là, depuis quelques mois, sont mis à croire à beaucoup de théories complotistes en même temps. Donc, un petit peu de QAnon, un petit peu de théories à l'effet là, qu'il y aurait un grand complot sur la pandémie. Donc, toutes sortes de théories qui sont mélangées, ce qui fait en sorte que même si on doute sur certains aspects des théories liées à QAnon, on risque de continuer à croire au reste.
Pourquoi ces gens-là croient à ça? Qu'est-ce qui fait que dans leur vie, ils accrochent puis ils sont vraiment là, ils partent avec le courant?
Bien, c'est sûr qu'il y a différents cas de figure, mais ce que nos données nous montrent vraiment, en tout cas nos différentes phases de sondage depuis le début de la pandémie, c'est vraiment qu'il y a aussi un sentiment de détresse, beaucoup d'anxiété chez certains d'entre eux qui cherchaient des réponses à leurs questions en se disant « mais ça se peut pas que ce qui se passe en ce moment, la société est si mal, la pandémie, pourquoi on n'a pas d'explication sur tout ce qui se passe dans les grands médias ?» Et le fait que, justement, ce soit un phénomène naturel, méconnu, c'est souvent très insécurisant pour beaucoup d'entre eux. Ils peuvent se tourner vers des réponses alternatives en disant « il y a des complots, il y a des explications secrètes ». Et là, vous pouvez avoir les vraies réponses. Aussi étrange que ça peut sembler, mais c'est confortant pour eux, c'est vraiment réconfortant. Ça répond à des besoins émotionnels où là, ils se sentent à l'avant-garde des informations, comme des leaders qui peuvent emmener un monde meilleur, finalement.
Ça m'amène à faire une analogie avec les sectes. Je me souviens de l'Ordre du Temple solaire. Bon, beaucoup de gens ont été des fidèles, ont adhéré, ont cru, mais on savait que derrière ça, il y avait des leaders qui manipulaient, par exemple, par des effets techniques, en sachant qu'il n'y aurait pas le transit vers Sirius. Et bon, ceux qui sont les figures dominantes, et je ne parle pas qu'au Québec, là, ils sont illuminés ou s'ils profitent des illuminés?
Mm-hmm. Mais la comparaison avec la SEC a été faite beaucoup dernièrement, entre autres, je pense à Marc-André Argentino, qui est chercheur, qui comparait beaucoup QAnon à une SEC dans la façon dont, justement, là, on se fiait aux propos d'un Q, puis les gens qui embarquent dans ces propos-là passent des heures en ligne, s'isolent de ceux qui y croient pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont très proches là d'un mouvement sectaire, oui. Après ça, bien, les gens qui partagent ce genre de thèse complotiste-là et qui deviennent un peu les figures de proue, les grands influenceurs, bien, on a différents figures de style. Il y en a qui vraiment, visiblement, partagent ça parce qu'ils croient eux-mêmes. D'autres ont l'air d'être en quête d'une certaine influence. Quand on parle de QAnon, mais c'est difficile à dire parce que le fameux Q, on ne sait pas exactement qui c'est. Il y en a qui disent que c'est une personne, d'autres deux. Semble-t-il qu'il y aurait un rôle important au gouvernement américain. On ne le sait pas trop. Donc, c'est quelqu'un qui est anonyme en plus, là.
Qu'est-ce que je fais avec quelqu'un de mon entourage, de ma famille, un ami qui, disons, m'achale avec ces théories-là depuis les derniers mois et à qui je pourrais dire, par exemple, « Regarde, tu vois bien que ça marche pas, là, tu vois bien que ça tient pas en route. » Je fais quoi avec quelqu'un près de moi qui croit à ça?
C'est pas facile comme réponse. Il y a vraiment différents niveaux d'adhésion déjà, et ça peut jouer sur la relation avec cette personne-là. La première chose à faire, je vous dirais, même si ça peut sembler tentant, surtout à l'issue là, de la journée d'hier, c'est pas de pas ridiculiser. Parce que si on se met à ridiculiser puis à dire ben comment t'as pu croire à ça, puis tu vois bien qu'il se passe rien, mais on ferme la personne, puis là, la personne va être encore plus fâchée, puis risque de vouloir clore la discussion et ce sera pas une bonne façon d'essayer de la faire sortir de là. Donc vraiment d'écouter, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui l'a motivé à croire à ça, à adhérer à ça. Souvent, comme je vous disais tout à l'heure, il y a différents cas de figure, mais il y a là-dedans beaucoup de détresse parfois émotionnelle ou de recherche de réponse. Donc, en comprenant les motifs profonds, bien, on peut en discuter et dire oui, c'est légitime peut-être de se poser des questions sur ce qui se passe, mais est-ce que vraiment les informations que tu as été chercher sont fiables? Et là, ça veut ouvrir une discussion.
Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une partie de ces gens-là qui, comme vous le dites, vont se radicaliser probablement hier hyper tranquille, là. Mais quand on sait qu'il y en a qui ont une formation militaire, des antécédents policiers, il y a quelque chose de ce qu'on appelle le terrorisme domestique. On l'a souvent négligé, là, mais c'est pas banal, là.
On l'a souvent négligé à tort, c'est vraiment pas banal. Et puis les mouvements là, liés à la droite identitaire sont tout de même très importants aux États-Unis, même ici. Et il suffit parfois d'un individu qui décide de passer à l'acte parce qu'il est frustré justement qu'il ne soit rien passé. Ça peut faire des dégâts importants, encore plus si on est devant un petit groupe organisé. Donc c'est certain qu'il faut s'en préoccuper, surtout qu'il y a une montée là, d'un certain discours violent en ce moment. Puis il continue quand même dans ces groupes-là d'avoir des gens qui partagent les mêmes théories à l'effet, par exemple, que présentement on aurait un président américain qui serait pédophile et on voit les mêmes vidéos, les mêmes mimes qui reviennent.
Madame Carignan, merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Bonne journée à vous.
Merci. Marie-Ève Carignan, qui est professeure au département de communication et directrice du pôle média chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent à l'Université de Sherbrooke.